La suite de BFM Story, nous sommes à 10 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Je reçois ce soir Nathalie Arthaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Candidate lutte ouvrière pour la deuxième fois. J'ai l'impression qu'en cette fin de campagne, vous êtes fait un peu voler la vedette par Philippe Poutou qui, je regardais les derniers sondages, progresse alors que vous avez du mal à décoller. C'est un regret ?
Non mais moi, je n'ai jamais rêvé être une vedette. J'avais voulu être une vedette, j'aurais fait du cinéma.
Ah, ou passer à la télévision.
Ou j'aurais fait journaliste.
Ah, vous êtes autant de télévision que moi, vous savez.
Mais je me suis engagée, non, sûrement pas. Je me suis engagée à la lutte ouvrière, voyez-vous. Oui. Et donc c'est un peu un autre choix que j'ai fait.
Et vous regardez les sondages ou pas?
Donc, je les regarde, je suis bien obligée de les regarder. De toute façon, on me les rappelle en permanence, mais vous savez, c'est pas ça qui va m'arrêter, hein, et qui va, parce que bon, qu'est-ce que ça veut dire des sondages, voilà, je suis, bien sûr, je représente un courant minoritaire, et alors? Est-ce que ça signifie que mes idées sont nulles et non avenues? Vous savez, moi, je me souviens de 2012 au deuxième tour, j'étais la seule à gauche, à ne pas appeler, à voter pour François Hollande, la seule. Très minoritaire, hein. Seul contre tous les autres. Et puis au bout du compte, moi je n'ai pas voté pour Hollande au deuxième tour et je crois que...
Vous n'avez pas voté pour Hollande?
Je n'ai pas
Hollande
voté
Sarkozy,
pour Hollande.
Pour vous,
je
vous
n'ai pas voté
pas.
Pour Hollande parce que justement j'ai jamais cru à cette histoire, hein, tout sauf Sarkozy, parce qu'en réalité, voilà, je savais qu'une fois au pouvoir, les socialistes feraient comme toujours, c'est-à-dire qu'ils s'inclineraient face aux désidérés et aux ordres venus d'en haut, du côté du grand capital et du MEDEF. Et puis voilà.
Mais, donc, mais si vous voulez faire passer...
Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de travailleurs se mordent les doigts d'avoir d'être tombés dans le piège. Bon, bah écoutez, nous, nous avons tenu bon.
Oui, mais Nathalie Arthaud, si vous voulez changer de système, puisque c'est votre objectif, si vous voulez une vraie société à gauche en France, bah, finalement, le vote utile à gauche pour changer le système, c'est Mélenchon maintenant.
Non.
Avec
non.
Une chance peut-être... de gagner cette présidentielle.
Moi, je veux effectivement que les travailleurs se battent pour leurs intérêts, pour leurs droits élémentaires. Et dans cette campagne, je le redis, leur droit élémentaire, c'est le droit à un emploi. Le droit à un salaire correct, 1800 euros net pour le SMIC. C'est le droit de pouvoir accéder aux véritables informations, décisions, comptabilité des entreprises. Donc c'est leur droit les plus élémentaires. Mais je dis que même pour cela, il ne suffira pas d'élire le prochain président de la République, même s'il est intentionné vis-à-vis des classes populaires. En réalité, il faudra se battre, il faudra l'imposer par en bas. Parce que c'est un bras de fer qui a mené contre, effectivement, un grand patronat, contre ses profits, contre les dividendes des grands actionnaires. Donc c'est un combat social.
Mais en fait, vous dites, hein, je regardais attentivement votre programme, vous dites je suis communiste, bon ça c'est pas un scoop, je suis là pour défendre les intérêts du monde travail, je propose un programme de lutte en augmentant les salaires, interdiction des licenciements, contrôle des grandes entreprises, et vous dites tout ça, ça ne passera pas par les urnes. Donc ça veut dire quoi? Il faut renverser le pouvoir par les armes?
Ça ne passera pas par les urnes, tout simplement, parce que les plans de licenciement, les fermetures d'usines, les politiques de blocage de salaires, où sont-elles décidées? Elles sont décidées dans les conseils d'administration des grands groupes industriels et financiers, des grands groupes bancaires, dans les conseils d'administration. Est-ce que l'on a le pouvoir, dans cette élection, de voter pour ces politiques? Pour ce qui sera décidé
si vous voulez augmenter
dans ces
le SMIC, le gouvernement peut décider d'augmenter le SMIC.
Le SMIC, c'est vrai. Et encore, même ça, parce que vous savez, une fois qu'il a décidé quelque chose, le gouvernement, vous savez ce qui se passe. Hein, le grand patronat, ils défilent tous hein, à l'Élysée. Alors, ils n'ont pas besoin de manifester. Hein.
Alors, comment
ils ont une ligne
système,
directe avec le président de la République et ils expliquent « Ouh là là, mais c'est la catastrophe, vous n'allez pas faire ça, parce que si, parce que là, nous, on va partir, etc. » Et c'est le chantage permanent. C'est ce qui s'est passé sur Florange. Hein. Sur Florange, le gouvernement ne voulait pas que Florange ferme. Hein, y compris, il avait commencé un bras de fer avec Mittal, le PDG d'ArcelorMittal. Il a gagné son bras de fer, il l'a perdu. Pourquoi? Parce que, encore une fois, au-dessus du président de la République, au-dessus de ses majorités gouvernementales, il y a ceux qui dominent l'économie avec leurs capitaux.
Peut-être
et
que
leur
ça
argent.
Va mieux. François Hollande dit, par exemple, cette année, il n'y a pas la tournée des sites industriels menacés, comme c'était le cas en 2012, voire appeler Florange, et puis ces images, notamment de François Hollande sur une voiture, sur le capot d'une voiture, promettant de ne pas fermer le site. Ben, on ne voit plus ces images parce que la France va mieux, dit François Hollande.
Parce que surtout, aucun candidat ne veut s'engager réellement auprès des travailleurs et ensuite être mis devant leur propre reniement. Parce qu'ils pourraient aller voir les salariés de Whirlpool, hein, ils pourraient aller voir ceux de Vivart. Moi, j'étais au rassemblement des salariés de Vivart, ils pourraient aller voir les employés de Mime, ils pourraient aller voir dans la région lyonnaise. J'étais hier en meeting, il y a 3 entreprises, alors moyennes, petites, hein, mais quand même une Numensatel qui ferme son établissement pour des raisons de rentabilité. De la Tour, la bijouterie de la Tour, c'est aussi des salariés sur le carreau. Salia, une usine qui fabriquait des panneaux solaires. Donc dans toutes les régions, il y a cela. Et y compris souvent d'ailleurs des entreprises qui dépendent de grands groupes, en fait, qui prospèrent, sont richissimes et qui ferment leurs usines uniquement pour augmenter les dividendes pour les grandes fortunes qui sont à la tête de ces groupes. Donc moi, c'est exactement ce que je conteste. Et je pense que oui, il faudrait interdire ces licenciements. Ça dépendra des luttes des travailleurs et justement, ça ne dépendra pas de l'arrivée d'un prochain président de la République.
Vous parlez au nom des ouvriers. Des petits, des sans grades. Vous êtes professeur, vous avez un statut de fonctionnaire. Vous, vous êtes protégé finalement par ce statut. Est-ce que vous êtes la mieux placée pour parler au nom de ces gens qui peuvent être menacés du jour au lendemain de licenciement ?
Alors moi, je suis tout à fait consciente de ne pas être la plus exploitée des exploités. Ça, c'est clair. Et en même temps, j'ai conscience d'être une travailleuse. Et à la fin de la journée, ben, j'en peux plus. Voilà, je suis KO. J'ai tout donné, comme beaucoup de femmes et d'hommes. Et surtout, la question, c'est de quel côté on se range dans cette société. Et effectivement, moi, j'ai fait le choix de me ranger du côté des exploités, d'abord parce que je suis convaincue de faire partie intégrante de ce camp des travailleurs.
Vous faites partie des exploités ?
Mais bien sûr, vous savez, il y a différents niveaux d'exploitation. Même les pilotes d'avion et même les journalistes, figurez-vous.
Oui.
Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais le jour où on vous dit, eh bien, écoutez, on n'a plus besoin de vous pour X, Y raison, bah, parce qu'il faut renouveler, nouvelle génération, peut-être des plus jeunes, enfin, qu'est-ce qui peut se passer
hein, ça m'arrivera
savez,
sans doute un jour.
Ça peut arriver. Eh bien, vous vous sentirez en situation de dépendance. Et là, vous direz, finalement, je n'étais pas maître de ma vie. Et vous savez, quand
Est-ce que c'est pas la vie ? La vie, finalement, elle est faite effectivement
de
haut, de bas, de moments positifs, de moments plus difficiles.
Sauf que vous comprenez bien que ceux qui possèdent des fortunes immenses, et c'est quand même le cas, hein, ceux qui possèdent des milliards, c'est des fortunes d'ailleurs qu'on a du mal à se représenter en tant que salarié. Hein. Moi, cette année, je suis à 1400 euros par mois.
Mais ça changera ces milliards ?
Bernard Arnault, il a 8 milliards, il a augmenté sa fortune de 8 milliards. Je me dis que lui, quoi qu'il arrive, si vous voulez, il a de quoi voir venir, n'est-ce pas ?
Qu'est-ce que ça changera de prendre les 8 milliards de Bernard Arnault pour les autres ?
Parce que
lui, ça lui privera de ses 8 milliards, mais pour les autres, ça changera quoi ?
Que ça apporte que le groupe LVMH ait pour unique politique d'augmenter effectivement la fortune de monsieur Bernard Arnault qui est déjà autour de 30 milliards.
Qui vivent dans ce groupe,
Alors que cet argent-là, ces profits qui sont réalisés quand même par l'ensemble des salariés du groupe, pourraient être distribués en salaire, en embauche.
Il y a des salaires,
vous savez,
il y a des embauches.
J'ai fait le calcul. Rien que les dividendes qui ont été versés par le groupe Sanofi à ses actionnaires en 2016, c'était 6,7 milliards de dividendes. Eh bien, rien que ces dividendes-là, qui sont allés dans la poche donc d'une minorité, eh bien, ils auraient permis de doubler l'effectif de Sanofi. Alors, vous voyez, là, il y a une réponse, effectivement, à ce chômage de masse qui est le fléau de la société. Ça irait dans le sens de l'intérêt
collectif. Je vais vous poser une dernière question concernant, c'est l'actualité, c'est la contre-attaque du président Bachar al-Assad. Qui a répondu face aux accusations et dit que cette histoire d'attaque chimique est une histoire montée. Son régime ne possède plus d'armes chimiques depuis leur destruction en 2013. Vous le croyez ?
Moi, je pense qu'il est capable de beaucoup de choses. Voilà. Je pense que sa politique, sa dictature, elle est abjecte. Cette guerre est abjecte. Je pense que les interventions impérialistes des États-Unis et de la Russie sont abjectes et que les bombes, quand elles tombent, qu'elles viennent de Bachar al-Assad, qu'elles viennent de la Russie, qu'elles viennent des rebelles qui utiliseraient je ne sais quoi, qu'elles viennent des Américains, eh bien de toute façon, elles sont en dessous. Il y a des femmes et des hommes qui le reçoivent en pleine figure.
Donc
des
on
vies qui
faire,
sont brisées.
C'est pas notre problème.
Non, mais surtout qu'on arrête d'en rajouter parce que la réalité, c'est que cette situation elle empire depuis maintenant des décennies parce qu'il y a des rivalités dans cette région qui est riche en pétrole, on le sait pertinemment, et c'est la raison pour laquelle toutes les puissances impérialistes sont dessus et effectivement bombardent, pas du tout pour le bien de la population, mais pour se positionner.
Merci Nathalie Arthaud sur le plateau de BFM.